Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, le débat Emmanuel Macron et Mme Le Pen. La grande question à quelques jours du vote, qui a gagné, monsieur?
Je sais pas.
Ça commence fort.
Tu veux pas te mouiller ce matin?
Non, mais c'est pas ça, c'est parce que il me semble qu'il faut que tu sois français pour le déterminer vraiment. Parce que c'est tellement profond. C'est la connaissance qui affronte la colère. Hein? C'est deux gros mouvements, là. Le typique français, Macron, le régalien, l'énarque, l'élite française qui dit il faut de la connaissance pour gérer la France. Là. Puis moi, j'en ai-tu de la connaissance, puis je vais-tu vous montrer à soi? Oui, oui, on a vu ça, là. Un homme qui a une grande classe, d'ailleurs, et très, très, très connaissant. Et l'autre, la colère, qui dit peut-être que tu connais tout, mais tu vois rien. C'est que tu vois pas la colère du peuple. Puis moi, je suis la colère du peuple. Et ça, ce ne sont pas deux styles. Ça, c'est une France divisée en deux sur deux mouvements, deux thèmes extrêmement puissants. Fait que lequel de ces deux thèmes-là va l'emporter? Ben, pour comprendre qui va l'emporter, moi, je me suis posé la question, que s'est-il passé dans les 5 dernières années? En quoi est-ce que l'échiquier aurait pu changer? Parce que c'était la même affaire, là. C'était la connaissance qui affronte la colère au dernier quinquennat. Ben, c'est qu'il s'est passé, bon, les Gilets jaunes. Des gens qui sont montés puis à répétition dans toutes les villes de France pour dire vous ne comprenez pas les revenus que vous nous imposez, les dépenses que vous nous imposez, on peut pas vivre avec ça, puis on va vous le faire comprendre à coups de barre de métal dans les vitrines, puis ça, il y aura pas de fin à ça, là. Vous ne gagnerez pas sur nous. Ça, c'est, il s'est passé ça. Mais ça, donc, avantage Le Pen. Il s'est passé la COVID. La COVID, avantage Macron. Parce que Le Pen a foncé à fond dans la solution de l'hydrochloroxine. Pourquoi ce médicament-là? C'est pas un médicament contre un autre, là. C'est un refus du confinement. C'est un refus de dire, hey, c'est pas si pire. Tu prends ce médicament-là, pif, paf, tu t'en sors. Ces affaires de confinement, puis tout ça, on veut rien savoir. Ça, c'est vraiment avantage Macron. Elle s'est mis le pied dans le... Russie, la guerre en Russie, avantage Macron. Puis chômage, avantage Macron. Alors, moi, je pense que Macron va l'emporter au la main, mais qu'elle a fait bonne figure au débat.
Ben moi, j'ai pas besoin d'être française pour conclure, mon cher Luc, que pour moi, c'est Emmanuel Macron qui a remporté le débat. Je l'ai écouté attentivement 2h50, un débat qui a mobilisé 15,6 millions de Français. On dit qu'en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais en évitant de démoniser son adversaire. Il a évité de traiter Marine Le Pen, son parti, ses idées de radical, d'extrême droite. Il a vraiment été silencieux sur ce genre de qualificatif. Et moi, je me serais attendue à ce que Marine Le Pen soit plus agressive. Parce que celui qui devait théoriquement se retrouver dans les câbles, c'est Emmanuel Macron, c'est celui qui avait un bilan à défendre. Alors, Marine Le Pen a fait le contraire. En fait, j'ai senti beaucoup de retenue de sa part. Probablement qu'elle ne voulait pas éveiller les talents de débatteur d'Emmanuel Macron. Puis tu l'as dit, là, c'est un homme qui a beaucoup de classe, mais qui a une facilité incroyable, une agilité sur le plan verbal qui est absolument phénoménale. Cependant, en revanche, Marine Le Pen, j'ai trouvé qu'elle avait un discours extrêmement pragmatique. Elle s'est présentée comme celle qui défend les Français au quotidien. Elle comprend ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça qu'elle peut si bien verbaliser leur colère. Elle a parlé du pouvoir d'achat. C'est le premier thème qui a été abordé. Le pouvoir d'achat, c'est ce dont on parle tous les jours ici. L'augmentation du coût à l'épicerie, les coûts de l'essence, le coût énergétique en France. Puis elle se présente également, et ça c'est assez fascinant, comme celle qui peut rassembler les Français. Alors que traditionnellement, le Front national est celui qui est perçu comme un parti qui divise les Français, qui divise la France. Tu dis probablement que Macron va gagner, Luc, absolument, parce qu'avant que le débat commence, les sondages accordaient 55% d'intention de vote à Emmanuel Macron contre 45% pour Marine Le Pen. Alors, c'est 10 points d'écart. Mais l'avantage de ce débat pour les électeurs français, c'est que le choix maintenant est très clair parce qu'on a deux candidats qui soutiennent des positions aux antipodes qui sont diamétralement opposées. Tu t'en es rendu compte, là, Luc, l'âge de la retraite, qui est un débat qui a cours depuis des années en France. Le Pen propose 60 ans, Macron propose 65 ans. Le port des signes religieux dans l'espace public, le voile, entre autres. Le Pen dit faut l'abolir. Macron dit, ben non, au nom de la laïcité, au nom des valeurs d'universalité en France, on le maintient. Et il y a plein d'exemples comme ça. Là, moi, j'ai trouvé ça absolument plus qu'intéressant. J'ai adoré ça.
C'est de la grande politique, c'est vraiment le fun. Mais quand même, il y a 70% des propositions quand tu lis les programmes qui sont les mêmes. Parce que ces deux, le regroupement national a appris à force d'erreur qu'il ne pouvait pas juste se cantonner dans la solution universelle de gérer mieux les immigrants, notamment en les faisant disparaître. Mais ils ont appris que ça ne suffisait pas. Là. Et donc, ils ont étoffé leurs propositions. Ils ont des propositions étoffées sur la plupart des sujets. Et ça, c'est une grande différence dans le débat, là. Elle est arrivée avec des connaissances sur beaucoup de domaines. Tu as parlé des retraites, mais tu sais, ils ont un problème, ils ont parlé beaucoup de santé, ils ont un problème d'éducation, l'éducation nationale qui était une clé du développement de la France, ne l'est plus. Elle connaît bien la question des revenus. Bon, là, il a obstiné en disant non, mais ça, c'est des déficits qui appartiennent aux municipalités puis appartiennent à la Caisse de sécurité sociale et non pas à l'État. Bon, mais il avait l'air plus connaissant qu'elle, mais elle est arrivée quand même avec des connaissances. Mais le 30% de trucs qui les séparent, il est assez, c'est de ça qu'il faut parler. Ce 30%-là, là, c'est les solutions du regroupement national pour l'immigration. C'est ça qui fait la différence là, entre les deux. Et c'était peu discuté hier au débat, mais non, tout le monde dit attention, c'est là que se cache à peu près tous les éditorialistes européens de gauche ou de centre-gauche disent faisons barrage à Le Pen là, parce qu'elle arrive avec des solutions radicales, des solutions comme par exemple veut rétablir les frontières, veut sortir de l'OTAN, etc. Et aussi dans la gestion nationale, on a parlé du voile, mais sur la gestion par exemple des gens qui ont les immigrés, l'asile politique, donc les réfugiés. Il y a des positions qui ressemblent à celles du Canada. On te ramène à la frontière. Une fois que tu n'es pas reconnu comme réfugié, on te ramène à la frontière. Ça, ça ressemble au Canada. Mais la préférence nationale, c'est-à-dire, si tu n'es pas français, tu n'as pas le droit aux aides sociales, aux aides sociales, c'est énorme, là, c'est gigantesque, parce que ça fonctionne beaucoup avec les aides sociales en France. Notamment, l'accès aux garderies, l'accès aux allocations familiales, les aides à l'emploi, à la formation, etc. C'est gros de dire, si tu n'es pas français, tu n'auras pas le droit à ça. Là.
Oui, mais elle s'est imposée comme la candidate du changement, par exemple sur le plan économique, alors qu'elle parle de localisme, de patriotisme économique. Ici, on parlerait de nationalisme économique, de mettre en valeur les entreprises françaises. Macron lui oppose le libre-échange et la mondialisation. Mais ce que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue québécois, c'est à quel point certains enjeux et défis sont proches de ce que nous connaissons. Tu parles de la santé, là, les déserts médicaux que la France vit dans ses zones rurales, la difficulté d'avoir accès à un médecin dans certains quartiers, le personnel qui est à bout de souffle, un système hospitalier qui s'écroule, les EHPAD, l'équivalent ici des CHSLD, manque de personnel,
Ratio
personnel patient qui est déficient. Moi, j'ai retrouvé là, des défis auxquels est confrontée la France et des défis auxquels aussi on est confronté comme
mais
société.
Tu conviendras que sur toutes ces positions-là, c'est des nuances entre les deux, là. C'est des nuances. Là où
Oui. Ben oui, il y a des points. Effectivement, il y a des éléments de convergence. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que aujourd'hui, pour un Français qui est appelé à voter, le choix est quand même relativement facile. Il y a des constats, par exemple, sur le plan démocratique. Ils s'entendent pour dire que il faut redynamiser la démocratie, renouveler la démocratie. Mais je trouve que le choix est quand même assez simple.
En conclusion, monsieur.
Ben en conclusion, je parlais tantôt des mesures qui sont mises en œuvre, qui sont proposées par le regroupement national qui font toute la différence. J'en donne quelques-unes. Là. Traiter les demandes de droit d'asile uniquement depuis l'étranger. C'est-à-dire que tu veux être un réfugié politique, d'accord, mais à partir de la Malaisie ou du Mali ou de la Russie, là, tu arrives pas ici puis tu fais ta demande. Supprimer le droit durcir les règles de naturalisation, par exemple, la fin de l'acquisition systématique de la nationalité par le mariage. Tu te maries avec un Français, tu n'es pas Français. Ça, c'est des choses qu'on voit pas dans d'autres pays. Il y a un truc qui ferait sursauter tout le monde ici où on parle de définancer la police, là, c'est l'impunité des policiers. Donc, on reconnaît aux policiers le droit d'agir en tout temps et en tout lieu. On ne peut plus les poursuivre quelles que soient les actions.
Elle ne l'a pas dit, ça, hier. Elle ne l'a pas dit.
C'est le programme.
Elle ne l'a pas dit.
On s'arrête là-dessus. Puis au retour, ben justement, on va parler de politique québécoise. Il y a un sondage ce matin qui nous montre que c'est un sondage léger, que la CAQ domine largement les partis d'opposition, que le phénomène Éric Duhaime fait un peu de surplace, que les libéraux lèvent pas, que le PQ lève pas. Bref, que M. Legault est seul et arrive dans le décor Unless Balarama, qui, lui, veut créer une espèce d'equality party, c'est-à-dire un parti d'anglophones dans les circonscriptions, notamment de l'ouest de Montréal.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, sondage ce matin qui arrive au lendemain de l'annonce de Holness Balarama, l'ancien candidat à la mairie de Montréal, de créer un mouvement Québec, un mouvement essentiellement dans les circonscriptions anglophones de l'île de Montréal pour aller canaliser la grogne de l'électorat sur la laïcité, sur la loi renforçant le français. Alors, est-ce que ça va avoir un effet, Nathalie?
Est-ce que ça va changer la donne, Paul? Si changer la donne, c'est remporter des comtés dans l'ouest de l'île de Montréal, je ne crois pas. Cependant, je pense que s'il est habile, il va réussir à canaliser cette colère, cette déception qui est vécue chez les anglophones. Parce que les anglophones actuellement, de l'ouest de l'île en particulier, loyaux depuis des années au Parti libéral du Québec, sont tiraillés en ce moment. Tiraillés, effectivement, entre un PLQ qui a pris un virage nationaliste, qui les déçoit. Certains se sentent trahis. Mais tiraillés également face à une CAQ qui a un discours économique qui leur plaît, là. Cette espèce de perception que la CAQ, sur le plan économique, adopte des positions de droite, ça semble plaire à certains anglophones. Par contre, ce qu'il faut regarder dans le cas de Holness Balarama, c'est qu'il y a, je pense qu'il peut faire une différence parce que si on regarde les résultats qu'il a obtenus avec son parti politique lors de l'élection municipale à Montréal, sur l'ensemble de l'île, là, il a récolté au total 7,23% du vote. Par contre, dans certains arrondissements, là, peu importe poste de conseiller ou de maire là, confondu, là, il est allé chercher parfois jusqu'à 27% du vote, entre autres dans Saint-Léonard-Est. Là, il y a probablement pour lui une fenêtre d'opportunité, mais je doute que ça se concrétise en comté. Puis il est très ambitieux parce que lui, il veut présenter une trentaine de candidats, puis il espère faire élire une dizaine de candidats. Là. C'est pas rien quand même.
Puis il faut dire que il s'adresse au même public qui s'est adressé pendant l'élection municipale, c'est-à-dire l'île de Montréal, essentiellement. Oui. Mais dans l'île de Montréal, il y a les villes défusionnées qui votent pas à Montréal. Donc, quand t'as Hampstead, Côte-Saint-Luc, Saint-Anne-de-Bellevue et compagnie, Beaconsfield, Pointe-Claire, Dorval. Bon, ces gens-là, c'est le pourcentage d'anglophones est beaucoup plus élevé. La colère contre la loi 21 et la loi 96 est beaucoup plus intense. Alors oui, il y a certainement des points à marquer. Moi, je ne connais pas d'anglophones qui soient pour la loi 21 ou pour la loi 96. J'en connais pas personnellement. Ça existe peut-être, là, mais j'en ai pas vu. Alors, je croise beaucoup d'anglophones modérés, parlant parfaitement le français, totalement intégrés. Il reste qu'ils sont en désaccord avec ces deux lois-là. Alors, oui, il y a une colère, mais le Parti libéral peut porter une partie de cette colère-là aussi. C'est pas obligé d'être juste Balarama-Nes. Balarama-Nes, c'est vrai qu'il a fait des bons pourcentages dans certains coins, mais moi, je pense qu'il a fait même pas le tiers de ce qu'il aurait pu faire. Parce que il y avait une occasion en or. Là. À un moment donné, dans les sondages, je me rappelle plus exactement la date, mais le nombre d'indécis était plus fort que chacun des deux autres candidats. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents à voter pour les deux candidats en lice. Et là, il aurait pu vraiment faire élire du monde, carrément faire élire. Mais ici, il est pris comme un manche à balai. Et il a été déloyal, querelleur, mal informé, incompétent. Il a dit des choses qui tenaient pas la route, mais pas une seconde. Par exemple, qu'il allait rétablir le statut bilingue de la ville dès qu'il allait arriver. Après ça, il s'est rendu compte que c'était impossible parce que c'était dans la charte. Fait qu'il a dit qu'il allait tenir un référendum. Après ça, il a dit qu'il allait garder sur l'île de Montréal tous les revenus générés par l'île de Montréal. T'sais, genre une séparation plus, là, t'sais, une espèce de un mouvement séparatiste hyper radical. Donc, et puis en plus, avec son équipe, là, il a attiré Marc-Antoine Desjardins pour après ça le poignarder dans le dos. Le groupe communautaire avec lequel il travaillait, il a été dénoncé de toutes parts comme quelqu'un qui n'écoute pas, qui parle que pour lui-même et par lui-même, qui ne consulte pas, qui ne travaille pas. Alors, est-ce que les anglophones mécontents vont aller jusqu'à voter pour ce personnage?
Qui peut être perçu par qui est peut-être perçu comme par les anglophones, par plusieurs anglophones, comme un opportuniste. Hein?
Oui.
Et ça, je suis pas certaine que ça va plaire aux anglophones. L'autre chose, n'oubliez pas Colin Standish. Ça, c'est le gars là, de l'Estrie qui veut, lui aussi, qui a levé la main pour dire on s'emploie peut-être à créer un nouveau parti égalité pour l'Assemblée nationale. Alors, hier, Balarama Holness a déclaré que les deux hommes ne s'étaient pas parler dernièrement, mais je pense qu'ils le feront probablement, peut-être pour voir s'ils peuvent unir leurs forces pour faire contrepoids à toutes les politiques de la CAQ en matière de défense de la laïcité et de la langue française. Ça va être très intéressant, mais en même temps, tu parlais de ce fameux sondage qui est publié ce matin, là, Paul, dans par Léger. Tu dis François Legault, c'est comme il est seul là, sur son île. En fait, c'est comme si François Legault roule sur la voie de gauche, là, puis il n'y a personne à droite pour le dépasser. Par contre, il y a Éric Duhaime dans son rétroviseur. Là, n'oubliez pas. Et c'est sûr que François Legault est bien positionné, mais en même temps, il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici l'élection. Et à la fois Éric Duhaime et Balarama Holness vont se positionner un peu comme Marine Le Pen a tenté de le faire en France, d'une certaine façon. Comme le parti qui va verbaliser, qui sera le porte-voix des gens qui sont en colère au Québec, parce qu'il y a des gens qui sont en colère au Québec, il y a des électeurs qui sont en colère après certaines décisions de la CAQ, entre autres la gestion de la pandémie, même si le sondage semble dire le contraire, mais il y a des gens qui sont déçus et qui cherchent une voie face à l'effondrement du PLQ, du PQ.
Mais qui, moi ma question, là, la lumière de ça, là, puis peut-être la division du vote, qui va former l'opposition officielle? Dans l'hypothèse où la CAQ donne un peu ce genre de performance le soir du vote, là, la journée du vote, tu dis, mais qui va être face à la CAQ? Les libéraux par défaut parce qu'ils ont une concentration de comté? Québec solidaire?
Mais la question est excellente parce que si sur le terrain, il y a la montée des conservateurs, quand tu es à l'Assemblée nationale et assis sur le banc, là, l'essentiel des critiques viennent de gauche. Il faut améliorer tel programme. Il y a des demandes pour les garderies, il y a des demandes pour les personnes âgées. Ce sont toutes des demandes de gauche. Il y a personne qui s'assoit à l'Assemblée nationale pour dire faut sabrer, il faut couper 20% des dépenses de l'État. Il y a personne. Aux campagnes électorales, oui, mais quand tu étudies les projets de loi un par un, là, généralement, tu as besoin de ressources pour le faire. Alors, moi, je pense que Legault, s'il réussit à éliminer le PQ, il va être super à l'aise parce qu'il va avoir Québec solidaire qui va lui arriver avec Québec solidaire et le Parti libéral qui va lui arriver avec des demandes plutôt de gauche. Puis lui, il va dire, regarde, moi, je suis juste au milieu, là. Si tu arrêtes tout de m'écœurer, mais il y a du M à côté de moi, là.
Ouais, mais moi, dans le cas du PLQ-PQ, moi, je me demande si et Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon vont réussir à convaincre des candidats, suffisamment grand nombre de candidats pour combler les 125 comtés. En fait, je me demande dans l'état actuel des choses, je me demande si le PQ et le PLQ vont réussir à convaincre 125 candidats et candidates pour combler tous les comtés. C'est un. Deuxièmement, ta question, Paul, est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario QS Éric Duhaime qui formerait l'opposition officielle à Québec?
C'est...
Non, mais écoute, tout est possible. À partir du moment où le PQ et le PQ...
Mais tu évalues que QS peut, Éric Duhaime peut faire combien de députés? Combien de sièges?
C'est difficile à dire. C'est sûr qu'il va aller en chercher quelques-uns à Québec. Moi, c'est pour ça qu'on sent de la nervosité à Québec.
Oui,
non,
d'accord,
mais pas au point de
faire une opposition un peu officielle.
Non, mais ça va donner une drôle de... En fait, on va avoir un gouvernement qui va être encore majoritaire. Maintenant, est-ce qu'il sera largement majoritaire? Moi, je me souviens d'un François Legault qui a dit à Jean-René Dufort, Infoman, qu'il voulait pas gérer un caucus de 90 députés. Là. Peut-être qu'il, malgré lui, va se...
Ça fait qu'il y a bien des gens de talent qui restent assis à tout jamais sur une banquette de députés puis qui n'ont aucune commission puis aucune responsabilité puis qui finissent par s'en aller.
Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve demain vendredi.
C'est 23.